Europe 1. Europe 1, Culture Média.
9h30, 11h.
Jean-Pierre Foucault.
Eh bien, bonjour à tous et bienvenue donc dans Culture Média. C'est ma deuxième. La première, c'était hier, si je compte
bien. Et c'était bien.
Il me semble bien, oui.
Et demain, ça devrait être la troisième.
Ah, si oui, tout normalement. Se passe
bien. Bravo. Bonjour à tous.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Anissa. Bonjour Anissa Haddadi, Jean-Luc Témoigne et Julien Pichenet. Notre invité média du jour est devenu en 2021 le recordman du monde de victoires individuelles dans un jeu télé avec 252 participations accumulant au passage plus d'1 million d'euros de gains chez Jean-Luc Reichmann sur TF1. Bonjour Bruno Orcade.
Bonjour Jean-Pierre.
Soyez le bienvenu.
Merci beaucoup.
Vous regardez les millionnaires d'un drôle d'œil.
Bah non, mais on va avoir la liste des cadeaux qui est très impressionnante.
Hein. Dans la deuxième partie, vous regarderez également, puisqu'on sera avec Agustín Galeana. Alors, Playboy, n'hésitez pas.
Je vous remercie pour cette belle émission, Jean-Pierre. Mais vous m'offrez aujourd'hui. Ça me fait très plaisir.
N'hésitez pas à réagir donc avec le hashtag Europe 1. On est ensemble jusqu'à 11h.
9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média. Jean-Pierre Foucault.
Et comme chaque jour, on démarre cette émission. Bon, c'est obligatoire avec...
Cachez votre joie. Merci.
La session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Jean-Luc, avant toute chose, je crois que vous vouliez revenir un instant sur justement l'émission d'hier.
Et tout à fait, Jean-Pierre. Car je voulais vous redire déjà à quel point c'est un plaisir et un honneur de partager le micro avec vous.
Bon, d'accord.
Et au nom de toutes les équipes, je tenais à m'excuser pour l'attitude déplorable d'Anissa Haddadi.
Oh non.
Celle qu'on appelle depuis hier la hyène de Sochaux. Parce que pendant l'excellent journal des médias, Julien Pichenet avait annoncé que le chanteur Kinvé allait devenir animateur de jeux sur Énergie 12. Ce qui vous avait amené à cette réflexion pleine de bon sens.
On ne nous a jamais demandé à nous d'être chanteurs. Non. C'est marrant de demander aux chanteurs d'être animateurs.
Si, vous avez fait une petite chanson, vous, Jean-Pierre.
Oui, non, mais ça suffit, je vous ai parlé
à vous.
Est-ce que ce sont des manières ? Jean-Pierre vient à peine d'arriver, on lui balance direct sa chanson pour la Coupe du Monde 78. Non mais ça va pas, vous avez qu'à la diffuser aussi tant que vous y êtes.
Allez la France, allez, il faut marquer.
Ah, c'était bien.
Moi, jamais je ferai ça. Hein. Je respecte trop Jean-Pierre. Et en plus, c'est pas ma chanson préférée. Non, la meilleure, c'est quand il chante New York City.
Eh bien, à demain. Merci beaucoup, Jean-Luc.
Eh oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais grâce à cette chanson, Jean-Pierre a beaucoup œuvré pour le réarmement démographique dans les années 70. Avec ce slow, tu fais condé direct. Alors oui, on n'a peut-être pas demandé à Jean-Pierre d'être chanteur, comme il l'a dit, mais il a devancé l'appel. Même si son vrai domaine d'expertise, tout le monde le sait, c'est l'animation. D'ailleurs, Jean-Pierre, que faut-il pour faire une bonne émission ?
Pour faire une émission qui aille dans toutes les maisons, il faut de l'imagination.
D'accord.
Trouver des idées qui fassent s'envoler des millions de couleurs.
Ok, donc visiblement, il se drogue.
Je précise que c'était avec Dorothée pour un show.
Oui.
Pas de pitié pour les croissants.
Exactement, ouais. C'est ça.
Mais bon, ça suffit Jean-Luc maintenant, ça suffit. Je vous remercie. Ce matin, donc, nous recevons, soyons sérieux, Bruno Orcade, recordman mondial de victoires individuelles dans un jeu télé. Hein.
Et je dis bravo Bruno.
Merci Jean-Luc.
Bruno, franchement, car un gagnant de jeu télévisé, c'est avant tout quelqu'un qui nous fait tous rêver. Comme Christian Quesada. Bon, mauvais exemple. On a appris aussi que le grêlé avait fait tout le monde de prendre sa place. Ça finit souvent en fait divers, ces histoires, quand même. Hein. Si elle se trouve, aujourd'hui, Landru gagnerait Top Chef.
Mais bon. Ah non.
Mais bon, ça, Bruno a l'air plus équilibré. Et quel parcours. Après 252 participations aux 12 coups de midi, Bruno a gagné plus d'1 million d'euros.
Ça n'était jamais arrivé de remporter plus d'1 million d'euros dans un jeu télé en France.
Le million après 9 mois de victoires quotidiennes.
Alors, je ne sais pas si je dois vous féliciter, Bono, parce que Jean-Pierre gagne la même somme pour 5 émissions de Culture Média. Posez-vous les bonnes questions, Bruno. Alors, 9 mois de victoires quotidiennes, c'est plus une participation à un jeu, c'est une alerte enlèvement.
Oui, bon, d'ailleurs, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé un autre jeu, vous.
Oui, votre jeu préféré, Jean-Pierre, vous qui passez vos journées sur W9. Ça s'appelle The Power, qui a le pouvoir. Ou si vous n'êtes pas bilingue, je vous traduis, le pouvoir, qui a le power. Je vous résume le concept.
Le but est de trahir et d'avoir le pouvoir et de le cacher.
Voilà, vous savez maintenant comment Jean-Pierre a pris la place de Thomas Hill. Mais je n'en dirai pas plus car je tiens ma place et je ne suis pas très courageux.
C'est exact.
Cette semaine, Maïsan nous a fait une révélation et je crois que vous n'êtes pas prêt.
Je suis tripophobe. J'ai la phobie j'ai la phobie des petits trous.
La phobie des petits trous. Comme Julien Pichenet.
Ouais,
ça a l'air de rien, mais ça a conditionné toute une carrière. Il est devenu journaliste alors qu'à la base, il rêvait d'être proctologue.
Ah non.
Dans les derniers épisodes, c'est Eddie qui héritait du power et Marwa a tout de suite eu des doutes sur lui.
J'ai envie de prendre Eddie comme ça et de secouer, de dire « Allez, dis-nous la vérité, t'es cramé là !» T'es cramé. C-A-R-A-M-E, accent aigu.
Oula.
Non, mais ouais, si on t'écoute bien, il dit il est pas cramé, il est caramé. Hein, With the Power, c'est une aventure humaine, mais c'est surtout un rendez-vous en terre inconnue pour le français.
Shona.
Yes.
Quelle est la personne autour de ce salon que tu n'as absolument pas confiance?
Moi, la personne que j'ai absolument pas confiance, c'est ton Becherel. Mais la production de l'émission insiste quand même dans les défis extrêmes.
Le jeu est simple. Trois équipes vont s'affronter pour découvrir des rébus.
C'est quoi des rébus?
Je suis stressée parce que j'ai à peine de comprendre qu'est-ce que c'était qu'un rébus. Donc...
Oui, Koh-Lanta à côté, c'est une balade en pédalo. Réunion maintenant au sommet entre Nicolo, Gabriel et Marois. Problème, d'habitude, ils invitent Eddy, mais pas là.
Je prends un petit peu mal, j'avoue. Je sais pas, on a pas dit qu'on était ensemble, les trios, donc quatrio, non?
Eh oui, à quatre, c'est pas un quatuor, c'est un quatrio. Un quatrio, c'est un trio à quatre. Enfin, j'imagine, mais là, il faut que j'aille me reposer en duel. Le duel, c'est un duo, mais tout seul.
À demain. Salut, Jean-Luc, à demain. Je rappelle que samedi, vous jouerez... Non, je ne veux pas dire que samedi, je ne le dirai pas, que vous présenterez votre spectacle Liquidation à la Comédie des Volcans à Clermont-Ferrand. Et nous, on se retrouve demain, et d'ici là, en replay sur Europe 1.fr.
Il est bon. On fait des abdos avec Jean-Luc Lemoine tous les matins sur Europe 1. Restez avec nous. Nous allons faire connaissance avec un champion du monde dans un instant.
Oui, bien sûr.
Recordman mondial des jeux de télé. Il est millionnaire aujourd'hui. Il s'appelle Bruno Orcade et c'est votre invité dans un instant sur Europe 1. Jean-Pierre Foucault.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h, avec Jean-Pierre Foucault et votre invité ce matin, Jean-Pierre.
Ce matin, je reçois le recordman absolu des jeux télé. Je suis déçu car il ne vient pas de Qui veut gagner des millions, à quelques milliers d'euros près. Mais des 12 coups de midi que présente chaque jour sur TF1, Jean-Luc Reichmann, vous publiez, Bruno, moi millionnaire, comment je suis devenu le plus grand gagnant des jeux télé chez Hors Collection. Est-ce qu'il y a un secret pour réussir? Comment on peut avoir toute cette culture générale qui nous étonne lorsqu'on regarde l'émission?
Alors, je pense qu'il y a quand même le travail, c'est-à-dire je me suis vraiment organisé presque de manière militaire pendant l'émission, c'est-à-dire je faisais des fiches, je révisais, j'avais segmenté les domaines tous les soirs pour me reposer, je regardais un film culte du cinéma français, mais en notant les acteurs, les réalisateurs, etc. Donc ça a limite été mon travail et toute une organisation pendant des mois. Et après, il y a aussi la passion, l'intérêt, c'est-à-dire que si on apprend bêtement des choses qui ne nous intéressent pas, on va très vite les oublier. Bien sûr. Le principe du bachotage. Ouais. Alors que si on est vraiment intéressé par ce qu'on lit et par ce qu'on apprend, bah on retient plus facilement. Donc voilà, toujours se passionner et être curieux.
Est-ce qu'on peut dire que vous savez tout sur tout?
Non, pas tout sur tout. Parce que quand même. Le principe de la culture générale, c'est que finalement, ça regroupe absolument tout. Ouais. C'est ça qui est incroyable, c'est que ça va du sport à la politique, à l'histoire, à la télé. Et c'est quand même impossible de tout savoir sur tout, mais voilà, on essaye d'en apprendre le max.
Alors si on fait les comptes, vous avez remporté 1 026 107 euros de gains dans l'émission.
Absolument.
Et ce jour où vous passez le cap du million, à l'inverse de certains candidats qui gagnent, on vous voit très très calme, en quelque sorte vous intériorisez. Aucun signe de joie, ni même de cri. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne réalisez pas sur le moment?
À peine un sourire, je reste assis. C'est vrai. Déjà sur le moment, c'est très artificiel, je trouve. Quand c'est sur un plateau télé, quand Jean-Luc annonce le gain, enfin, tant qu'on ne l'a pas sur... Tant qu'on
n'a
pas dans son compte en banque, exactement, quand on voit tous les zéros arriver là, oui. Mais c'est vrai que sur le moment, on est content parce qu'on surtout, on ne réalise pas 1 million. C'est tellement loin, et puis c'était loin du salaire que j'avais, etc., qu'on ne se rend même pas compte, 1 million, combien ça représente en mois de travail, en années de travail, etc. Donc il a fallu que je me pose, que je prenne ma calculette, que je divise et que je me rende compte que je venais de gagner plus de 40 ans de travail d'un coup. Et donc là, on prend vraiment la réalité.
Sauf que, il faut expliquer que ce million d'euros comprend de l'argent, mais aussi de nombreux cadeaux. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, accrochez-vous, gagné 9 voitures.
Voitures.
Je dis bien 9 voitures. Qu'est-ce que vous en avez fait de ces voitures?
Alors, il faut un grand garage au début pour les stocker. Parce que vraiment, souvent, les gens s'imaginent que c'est un peu faux et qu'en fait, on reçoit de l'argent. Mais non, on reçoit vraiment les cadeaux qu'ils nous offrent. Et donc, du coup, il faut immatriculer les voitures, les assurer, les ramener à Toulouse, d'où je suis originaire. Donc, on a fait beaucoup de kilomètres avec mon beau-père pour les récupérer. Et non, j'en ai vendu la plupart. J'en ai offert une à mon cousin qui, sa voiture venait de tomber en panne. J'en ai gardé une au cas où, parce que je sais pas trop où est-ce que je vais vivre, donc ça peut toujours servir, mais non, j'ai vendu 7 voitures parce qu'elle commençait à prendre de la place dans le jardin de mes parents.
Et la Mustang, vous l'avez gardée ou vous l'avez vendue?
Non, je l'ai vendue. C'était une 100% électrique. Elle est partie au Danemark, si vous voulez tout savoir, parce qu'il y a une loi où ils sont obligés d'avoir des voitures électriques. Du coup, ils sont très friands de voitures électriques. Donc voilà.
Mais elle comment ça se passe quand on gagne comme ça dans les jeux? On se demande toujours, on voit des gagnants gagner des voitures, des voyages. La voiture, on vous l'emmène chez vous, vous allez la chercher quelque part, tout se passe à Paris. Comment ça se passe
en
exactement?
En fait, on nous donne le contact de la concession qui est en région parisienne. Et donc, on doit nous s'occuper de l'immatriculation matriculer, de l'assurer, enfin, exactement comme une personne qui achèterait sa voiture.
C'est pas la voiture qui est en présentation sur le plateau
alors,
avec laquelle vous repartez.
Elle retourne à la concession.
Ah d'accord.
Voilà. Et donc du coup, on est obligé de la récupérer. Alors après, on peut la vendre directement. On est tout à fait libre d'en faire ce qu'on veut. Mais en effet, on la récupère. Et donc du coup, il fallait ensuite nous la descendre jusque Toulouse. Mais bon, ça se revend facilement des voitures neuves. Bah, évidemment. Je vous rassure.
Alors, lorsque vous commencez à apparaître dans l'émission, vous êtes salarié à Eurosport, mais vous perdez votre emploi suite à un plan social. Comment vous organisez-vous pour les tournages? Parce que d'abord, c'est compliqué de dire tiens, je viens de perdre ma place et je suis un jeu télé, non?
Tout est arrivé en même temps finalement. Ouais. Du coup, au début, c'est presque un mal pour un bien parce qu'au début, il faut s'organiser. Et bon, vous connaissez un peu les rouages de la télé, Jean-Pierre, les sessions de tournage, etc. Donc, on est obligé de poser beaucoup de jours à la suite parce qu'on enchaîne les émissions. Et puis surtout, on peut perdre à tout moment. Donc, en fait, on pose des jours. Et puis, tous les jours, il fallait que je rappelle mon chef en disant « je suis encore là, donc je confirme que demain, je ne viens plus ». Donc, il y avait quand même, en termes de logistique et d'organisation, c'était un petit peu compliqué. Et quand il y a eu le plan à Eurosport et que j'en ai fait partie, finalement ça m'a libéré mon emploi du temps et j'ai demandé au RH si c'était finalement possible que je parte tout de suite parce que normalement il y a un préavis de 3 mois. Ouais. Je leur ai dit finalement vu que je dois partir et mes chefs étaient tout à fait à fond derrière moi parce qu'ils voyaient l'aventure incroyable que je faisais, donc ils m'ont dit pars le plus vite possible comme ça t'as tout ton temps.
Voilà.
Et finalement j'ai pu m'organiser à 100%.
Et vous ne regrettez pas Eurosport du tout?
C'était quand même très sympa, j'adorais le sport et la télé, mais comparé à l'aventure Les 12 coups de midi, oui, c'était pas trop comparable. Mais
vous avez un métier maintenant, un vrai métier, si je puis dire.
Toujours pas. En fait, rentier est considéré comme un métier?
Mais vous cherchez du travail?
Je fais souvent des petits CDD, des temps partiels, etc., sur des domaines qui m'intéressent, c'est-à-dire l'art, la culture, etc. Mais je me reverrais peut-être pas faire comme je faisais avant un travail de bureau. Et surtout, je m'occupe des investissements locatifs, puisque j'avais pas envie de placer mes gains dans tout ce qui est bourse, le bitcoin, etc. Ce n'est pas du tout mon style. Du coup, je fais des investissements locatifs dans le sud-ouest, d'où je suis originaire. Comme j'ai du temps libre, je m'occupe moi-même de faire les visites d'appart, je rénove un petit peu, les rendez-vous, banque, assurance, etc. Mais c'est quand même une vie sympa.
Ouais. Vous revoyez Jean-Luc Reichmann?
Absolument. Alors, de toute façon, on a des rendez-vous réguliers. Chaque été, on a le combat des maîtres. Au Noël, il y a le prime de Noël. Et puis la semaine dernière, je suis allé le voir au Théâtre des Nouveautés pour sa pièce de théâtre.
Petite
promo déguisée. Il m'a gentiment invité. Donc non, on a un groupe sur nos téléphones. On communique très souvent. Donc on reste en contact les uns les autres.
Bruno Urquade publie son livre « Moi millionnaire, comment je suis devenu le plus grand gagnant des jeux télé aux éditions hors collection » le 18 avril. Vous restez avec nous, Bruno. Commentez l'actualité des médias.
Oui, parce que dans un instant arrive le journal des médias de Julien Pichenet. Vous vous souvenez, Jean-Pierre, Bruno, de ce documentaire « L'Odyssée de l'espèce » qui avait fait près de 9 millions de téléspectateurs. Ouais, c'était en 2003, il y a plus de 20 ans. Eh bien, les auteurs reviennent avec un tout nouveau documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 2. On en parle dans un instant sur Europe 1. Tout de suite. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Jean-Pierre Foucault. Avec votre invité ce matin, Jean-Pierre, le champion du monde des jeux télé, Bruno Urquade. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet.
Les audiences, pour commencer, Julien, les bracelets rouges ont-ils mieux fait que Meurtre Paradis hier soir?
Eh bien non, Jean-Pierre, c'est France 2 et les Meurtres Paradis qui ont fait le meilleur score hier soir avec 3 600 000 téléspectateurs. Les bracelets rouges, dont c'est la dernière saison, étaient bien en dessous avec 2 800 000 téléspectateurs. On est loin des 5 millions des premières saisons. On surveille aussi la première de The Song sur NRJ 12, ce jeu musical présenté par Kinvey, on en parlait hier dans le journal des médias. 98 000 téléspectateurs, 0,8% du public. Pas de miracle, la chaîne était dans sa moyenne habituelle et était même un petit peu en dessous de ce qu'elle fait habituellement à cette heure-ci. Et puis bonjour à la matinale, TF1 en revanche était légèrement au-dessus de sa moyenne habituelle. 298 000 téléspectateurs, 9,1% du public. Hier matin, précisons que la matinale de TF1 n'est pas présentée par Bruce Toussaint cette semaine, mais par sa joker, Maud Descamps.
Europe 1, le journal des médias.
Depuis hier, le temps de parole des candidats aux européennes, ça y est, sont comptabilisés.
Et c'est parti, une équité totale doit être respectée entre tous les candidats et ce jusqu'au scrutin du 9 juin. Donc pendant 8 semaines, jusqu'à début juin, les chaînes de télé et de radio devront transmettre à l'ARCOM, l'autorité de régulation des médias, le décompte des temps de parole des candidats, des partis et des groupements politiques. En cas de non-respect des règles, l'ARCOM peut envisager des mises en garde. Au total, il y a 10 radios et 17 chaînes de télévision qui sont concernées. Europe 1, bien évidemment, fait partie de ces 27 médias. En revanche, les web TV, les chaînes YouTube, Twitch ne sont pas tenues de respecter cette équité. Il y a aussi deux exceptions à la télévision, Arte et les chaînes parlementaires. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Bah ouais. Bon, dans l'actualité des médias également, cet ancien collègue de l'animateur d'énergie, Manu Lévy, qui laisse un message sur Instagram.
Il y a deux semaines, Libération publie un article précisant que le roi des matinales d'énergie avait été assigné au prud'homme par quatre anciens collègues qu'il accusait notamment de harcèlement moral et de management toxique. Depuis, plusieurs amis de Manu Lévy, dont Arthur et Nagui, avaient pris sa défense. Et hier, un ancien collègue de Manu Lévy a témoigné sur les réseaux sociaux. Il se présente comme ayant été son community manager il y a 3 ans. Il avait 18 ans à l'époque. Il a tenu 2 mois avant de démissionner. Il n'avait jamais osé parler de cela jusqu'ici, mais l'enquête de Libération l'a poussé à le faire.
Je me sens continuellement rabaissé et traité comme une merde. Je fais de mon mieux et je me donne vraiment au maximum. Et pourtant, tous les jours, les modifications de script, de vidéos, les messages et les appels peuvent durer jusqu'à tard le soir, toujours avec des paroles blessantes et rabaissantes. Je le vis clairement comme de l'acharnement et ça m'angoisse, mais c'est normal, c'est le début. Alors quand rien ne s'améliore et que, au contraire, tout empire, ça devient invivable. Je dors plus, je mange plus. Tous les matins, je pars à la radio avec des doliprane dans la poche tellement j'ai mal au ventre et que j'ai envie de vomir. Et tout ça, juste à cause d'une personne. À force de me répéter que je suis nul, je finis vraiment par le croire.
Ouais, ce jeune homme qui s'appelle Joe, en tout cas sur Instagram, raconte que faire de la radio était le rêve le plus cher, son rêve, mais qu'après cette expérience douloureuse auprès de Manu Lévy, il a totalement changé de voie. Il a quitté Paris pour retourner chez ses parents. Il travaille aujourd'hui dans la boulangerie.
À 101 jours du coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, la flamme va être allumée aujourd'hui sur le site d'Olympie. Et Nikos, Nikos est de la partie.
Ouais, c'est votre collègue de TF1, oui. Jean-Pierre, qui anime cette cérémonie pour la télévision grecque. Cérémonie qui vient de commencer il y a quelques minutes dans le berceau de l'Olympie devant les ruines du temple d'Héra et devant 600 invités, dont le président du CIO. Alors une fois allumée, la flamme va rester une dizaine de jours en Grèce. Elle prendra ensuite le bateau pour prendre la direction de la France où elle arrivera le 8 mai. Une fois en France d'ailleurs, plusieurs autres animateurs télé porteront la flamme. Ophélie Meunier, Denis Brognard, Stéphane Bern. Il y aura aussi Miss France 2024, Eve Gilles. J'ai pas vu le nom de Jean-Pierre Foucault dans la liste. Et pourtant, c'est à Marseille qu'elle arrive.
Mais pourtant, ce serait à Marseille avec TF1 et mes collègues pour accueillir le Bélème. À bord duquel la flamme olympique sera là. Donc ce sera en direct sur TF1 le 8 juin.
Mais vous ne porterez pas la flamme olympique.
Je ne porterai pas la flamme, non. On revient sur cette panne de clim survenue dimanche dans les locaux d'Altis Média.
Ouais, petit rappel, un incident rarissime s'est produit dimanche après-midi dans le bâtiment du groupe Altis dans lequel se trouvent les locaux d'RMC, de BFM TV, d'RMC Découverte et d'RMC Story. La clim est tombée en panne, la régie finale était en surchauffe, les programmes ont été mis à l'arrêt pendant 2 heures. J'ai joint l'une des figures du groupe, Christophe Delay, présentateur de la matinale de BFM TV. Il nous en dit plus.
Ce matin, c'était invisible pour nous et pour dire les choses, enfin, personne n'en parlait, donc j'imagine que tout est rentré dans l'ordre. Mais c'est vrai que dans nos métiers, dès qu'il y a, compte tenu du volume des serveurs, dès qu'il y a un coup de chaud ou une panne de clim, la température monte extrêmement vite. Nous, ça nous est arrivé 2-3 fois d'avoir une panne de clim dans le studio, alors que les projets sont plutôt halogènes maintenant, bah, tu supportes pas en fait. C'est intenable.
Et les journalistes, les présentateurs n'ont pas pu rester en plateau dimanche, il faisait trop chaud. Christophe Delay qui termine en ce moment de préparer la déclinaison de Faites Entrer l'Accusé, ça s'appellera Clim Flagrant. Ce sera sur RMC Découverte à partir du 2 mai. Je vous en reparlerai bien sûr.
Crime, hein, pas clim. Hein. Clim. Non mais ça aurait pu être Clim Flagrant, non, et là, s'il y avait un lien avec dimanche du coup.
Non, là il y a des morts et il y a du sang. Là.
Ça m'est arrivé un jour à Marrakech, on faisait Sacrée Soirée en direct. Il faisait tellement chaud que les batteries de la parabole de France Télécom ont fondu.
Comment avez-vous fait alors après ?
Eh ben, on est allé chercher d'autres batteries. Heureusement, non, il y avait un quart de secours.
Ah oui, d'accord.
Mais ça a fondu. Donc, incroyable. Comme quoi, la clim, parfois, c'est assez important.
Ouais.
On termine avec le retour des auteurs de l'Odyssée de l'espèce. On en parlait tout à l'heure. Ils reviennent 21 ans après avec un nouveau doc.
Oui, un nouveau documentaire, Les derniers secrets de l'humanité, qui a pour but de compléter l'Odyssée de l'espèce. Bon, la question posée reste la même vaste question. D'où venons-nous ? En 20 ans, on a fait de nombreuses découvertes supplémentaires. Ce sera 21h10 sur France 2. En 2003, c'était sur France 3 qu'avait été diffusé l'Odyssée de l'espèce. Le réalisateur Jacques Malaterre et le paléontologue Yves Coppens avaient fait un carton. Leur travail avait été suivi par 8 700 000 téléspectateurs. Près de 35% du public, des audiences qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui. Jacques Malaterre s'attend-il à un score d'audience identique ce soir ? Je lui ai posé la question.
La télévision a changé. On va pas égaler les scores qu'on a fait il y a 20 ans. Ce que j'espère, c'est qu'on va égaler les scores sur la durée. Que les derniers secrets d'humanité rentrent dans les écoles. J'ai déjà fait plus de 30 scolaires. Je peux vous dire que les collégiens et les élèves des écoles primaires sont passionnés, comme les étudiants sont passionnés de ça. Vous savez qu'aujourd'hui encore, il y a des paléontologues qui ont 30 ans qui me disent déjà que j'ai fait paléontologie parce que j'ai vu l'Odyssée des espèces quand j'avais 10 ans. C'est vraiment des valeurs, ce film porteur de vraies valeurs qui font de nous les hommes. Ça redonne confiance en ce que nous sommes dans les temps troublés que nous vivons aujourd'hui.
Un grand documentaire ce soir, instructif, pédagogique et phénoménal, avec des effets spéciaux exceptionnels. Et la voix de Nicolas Duvauchel, Jacques Malaterre, qui ressent une forte émotion aussi avant cette diffusion, parce que son complice Yves Coppin, je le citais tout à l'heure, est décédé il y a 2 ans. Il n'a pas vu le documentaire fini, Les derniers secrets de l'humanité. Rendez-vous ce soir à 21h10 sur France.
Ça va être passionnant, ça.
Nous y serons. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias, dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.
Merci beaucoup Bruno Hourcade. Je rappelle qu'on peut lire votre aventure, ce qui s'est passé dans les 12 coups de minuit, sachant que vous êtes devenu le champion du monde des jeux télé. Votre livre s'appelle Moi millionnaire, comment je suis devenu le plus grand gagnant des jeux télé. C'est aux éditions Hors Collection et c'est sorti il y a quelques jours maintenant. Merci beaucoup.
Merci
Bruno
à vous.
Hourcade.
Merci pour l'invitation.
Bonne chance pour la suite.
Bonne chance à vous.
Et Culture Média continue, Jean-Pierre Foucault avec vous après les infos de 10h.
Spécialement pour vous, on sera avec Agustin Galiana pour son nouvel album.
Et il va chanter en live dans ce studio Coluche pour les auditeurs d'Europe 1. Et puis vous le savez, Jean-Pierre, tous les après-midi sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelat, qui à partir d'aujourd'hui vous raconte en 2 épisodes l'une des affaires criminelles qui a le plus marqué les Français. Émile Louis, surnommé le boucher de Lyon. Alors tout commence à la fin des années 70 dans Lyon, vous vous souvenez de la disparition de ces 7 jeunes filles déficientes mentales. Le gendarme Christian Jambert enquête et signale un lien avec leur trajet en autocar. Mais la justice ne s'y intéresse pas et ils vont passer à côté du coupable. Christophe Ondelat raconte l'affaire Émile Louis, c'est tout à l'heure de 14h à 15h sur Europe 1.